histoire. Certains candidats présidents de la République ont déposé hier lundi à la Cour constitutionnelle les recours dénonçant ainsi la première décision rendue par la CENI invalidant leur candidature. C'est notamment des candidats tels que Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, Sami Badibanga et Jean-Paul Moka. Entre-temps, 15 222 candidatures sur 15 505 ont été retenues pour les législatives nationales. Quelle analyse faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir.
Jérôme Bosso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA en sigle. Bonsoir monsieur Jérôme Bosso.
Bonsoir cher ami Kimate, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Et Israël Moutala, journaliste, il est aussi analyste politique et économique. Bonsoir monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
19 dossiers de candidature à la présidentielle de décembre 2018 sont jugés recevables sur les 25 déposés au bureau de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. C'est ce qui ressort de la publication des listes provisoires des candidats à la magistrature suprême samedi dernier à Kinshasa. Par ailleurs, la centrale électorale de la RDC a jugé 6 autres dossiers irrécevables, parmi lesquels celui de Jean-Pierre Bemba Gombo, celui d'Adolphe Mouzito et Antoine Gizenga. Les détails avec Paul Matendo.
Nous venions aujourd'hui là de déposer notre recours à la Cour constitutionnelle.
Selon la CENI, la candidate Ifoko Marie-Josée, l'unique femme dans cette course, a été invalidée faute de nationalité d'origine après avoir perdu la nationalité congolaise. C'est la même raison d'inéligibilité de Sami Badibanga, premier ministre honoraire. Par contre, Jean-Paul Moka, lui, a été invalidé faute des preuves des paiements du dépôt des candidatures qui n'ont pas été retracées et confirmées par la DGRAD. Pour Adolphe Mouzito, il ressort qu'il y a conflit d'intérêts avec le parti Lumumbiste unifié PALU, même s'il a adjoint à son dossier une lettre de prise d'acte de suspension par les PALU. Le patriarche Antoine Kizenga du PALU, un autre candidat rejeté par la CENI pour défaut des qualités des signataires, des formulaires, des mandats et d'investiture. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, lui aussi, est déclaré irrécevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à un an de prison et au paiement de 300 000 euros pour subornation de témoins.
Merci à vous, Paul Matendo. Certains candidats présidents de la République ont déposé hier à la Cour constitutionnelle les recours, dénonçant ainsi la première décision rendue par la CENI et invalidant leur candidature. Se confiant hier au micro de Radio Capi, l'avocat de Jean-Paul Moka, dont la candidature a été invalidée pour défaut des preuves de paiement, dit attendre que la Cour constitutionnelle remette son client dans ses droits. Maître J.R. Nsingingwala est au micro de Pele Kipelamondo.
Nous venions aujourd'hui là de déposer notre recours à la Cour constitutionnelle. Nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse annuler la décision de la CENI et nous mettre dans nos droits les plus légitimes pour que nous allions à la course à la présidentielle. La CENI parle des paiements des frais non rétractables et non confirmés par la DGRAD. Quand vous allez lire tous les documents que le professeur Dr Jean-Paul Mokangol Ompati a déposé à la CENI, nous avons l'accusé de réception ou la note de perception de la DGRAD et puis nous avons l'accusé de réception de la banque ING à partir de la Belgique qui a fait un virement à partir de la banque centrale, ce qui avait fait que la CENI puisse accepter la candidature du professeur Dr Jean-Paul Mokangol Ompati pour le compte du regroupement politique Mouvement Bleu. Et même quand vous allez voir la fiche d'identité du candidat, parmi les pièces récoltées, l'assistance réceptionniste qui nous a reçus mentionne qu'il a reçu une pièce de preuve de paiement des frais pour la caution.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. 19 dossiers de candidature à la présidentielle sur 25 sont jugés recevables par la CENI. Et comment vous réagissez à cette décision de la centrale électorale?
En tout cas, lorsque l'on analyse tout le dossier lié au dépôt des candidatures et la manière dont la CENI a travaillé, je pense qu'on peut arriver à une seule conclusion, malheureusement, une conclusion malheureuse qui remet en cause vraiment la crédibilité de ce processus électoral. Si on pouvait encore avoir confiance dans ce processus, maintenant avec les dernières décisions, je pense qu'il n'y a plus de doute par rapport à la crédibilité de ce processus. Plusieurs problèmes logistiques, on a déjà évoqué, les problèmes de fichiers, les problèmes de machines à voter, les problèmes de finances. Et le plus grave pour moi par rapport à un processus électoral, lorsque vous allez dans un processus électoral où il n'y a pas de confiance, ça veut dire que l'électeur ne croit pas dans un processus, là je peux vous garantir que le processus ne sera pas du tout crédible. Deuxième conclusion qui est aussi dommage par rapport à tous les efforts qui ont été fournis pour pouvoir rendre crédible ce processus, c'est le fait que vraiment la direction de la CENI vient de prouver vraiment, justement, la façon dont elle travaille dans la précipitation et sans avoir une lecture, on va dire, rigoureuse, non seulement du droit, mais aussi d'avoir une logique dans les décisions qu'ils prennent. Je ne peux pas comprendre, par exemple, que l'on puisse exclure la candidature de Jean-Pierre Bemba pour condamnation en subordination des témoins et qu'on laisse Aimé Kilolo, qui a été à l'avocat de Jean-Pierre Bemba, qui a aussi été condamné par la Cour pénale internationale dans le cas du dossier justement de la subordination des témoins. Il y a plusieurs cas comme ça que la direction de la CENI a laissé passer et qui vraiment suscitent des questions et débats. Je viens de me rendre compte en essayant justement de relire à Docteur Cyril mes dossiers, je me rends compte qu'il y a un certain Batoumi qui est présenté sous la liste CEU et allié dans le territoire de Cabaret, et que ce candidat, vous savez où il est, ce candidat est actuellement en prison, à la prison centrale de Bukavu, où il purge une peine pour condamnation en titre définitif pour crime de guerre, non, crime contre l'humanité. Il a été condamné pour viol d'enfants et constitution de milices. C'est un procès qui avait été cité un exemple, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, qui avait été cité un exemple pour dire que le Congo s'était engagé à essayer de réprimer tous les gens qui étaient les auteurs de viol dans la province du Sud-Kivu et aussi en général dans l'est du Congo. Alors lorsque vous avez eu quelqu'un qui a été condamné à perpétuité, qui est en prison actuellement et qui se retrouve sur la liste des validés au niveau provincial, évidemment, ça pose vraiment beaucoup de questions et beaucoup de crédibilité. Donc ici, clairement, donc on peut douter vraiment de la bonne foi et même d'une espèce de partialité, on peut douter vraiment de l'impartialité du processus. Et il y a aussi quand même beaucoup de questions que tout ceci se pose. On a réuni, par exemple, le ministre de la Justice, remet la liste des candidats qui ont de doubles nationalités. Et on se rend compte que ces candidats occupent des postes pour lesquels ils ne peuvent pas occuper. L'État congolais, c'est comme si de rien n'était, c'est tout à fait normal. Donc certains sont encore aujourd'hui des députés et qui siègent au Parlement et que l'on sait, puisque le ministre de la Justice dit qu'il a transmis cette liste à la CENI, mais comme par hasard, le ministre de la Justice ne saisit pas le procureur pour aller essayer de réclamer ces personnes qui ont... Oui.
Oui, là, vous venez d'évoquer là un certain nombre d'incohérences, notamment les cas du député Batoumi qui est en prison, mais qui a été retenu, n'est-ce pas, dont la candidature a été retenue par la CENI. Vous avez aussi évoqué les cas, n'est-ce pas, cette question des subornations de témoins, en évoquant les cas de Jean-Pierre Bemba et Maître Aimé Kilolo. Mais au sujet de cette question, Maître Aimé Kilolo s'est exprimé ce matin sur Radio Okapi. Il a dit que ce n'est pas lui qui a postulé, c'est plutôt son papa qui porte le même nom que lui.
Ah, je ne sais pas, mais je ne sais pas quel âge a son papa. Et pourtant, quand je regarde la liste, elle est là devant moi. Je vois que je ne sais pas si le papa de Maître Kilolo est né en 1972. J'ai la liste des validés de la CENI devant les yeux. Je vois une naissance en 1972. Je ne sais pas si le papa de Maître Kilolo est né en 1972. Alors, s'il est né en 1972, je ne sais pas quel âge a Maître Kilolo. S'il a été très très brillant, son papa a 46, 6 ans, donc même l'épidémiologue ne sait pas quel âge il a, ça m'étonnerait à notre effort qu'il puisse être, alors dans ce cas, que ça puisse être son papa, alors que c'est clairement vu qu'il était né en 1920, dans les années 70. Et donc, clairement, on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un argument qui soit valable, puisque c'est clairement écrit sous la liste telle qu'elle est validée. Et ce qui veut dire à ce moment-là que vous allez aller aux élections avec plusieurs candidats qui ne mériteraient pas d'être sur la liste des...
Professeur.
Oui.
Oui, dans le contexte politique du moment, les neuf juges de la Cour constitutionnelle seront-ils en mesure de délibérer au-delà des intérêts des hommes politiques, au-delà des clivages idéologiques des partis politiques?
Ça va être vraiment, je pense que ça sera complètement difficile. Je vois mal comment cette Cour constitutionnelle va aller à l'encontre des décisions qui sont prises au niveau de la CENI. Alors, au niveau de la CENI, quand on analyse encore de manière froide les événements et les différentes argumentations que la CENI a essayé de mettre sur la table, on se rend compte, de manière claire, que c'est du copier-coller par rapport à des communications qui ont été faites par les différents porte-parole de la majorité présidentielle. Et les mêmes arguments qui ont été donnés par ces communicateurs de la majorité, ce sont les arguments qui se retrouvent au niveau de la CENI. Alors si c'est le cas, alors je vois mal comment cette Cour constitutionnelle va pouvoir se démarquer de cette ligne qui semble être bien tracée. Alors, on pourrait revenir un petit peu en arrière par rapport à cette Cour constitutionnelle. Vous devez savoir que cette Cour constitutionnelle a été quand même décapitée de plusieurs juges qui était jugé indépendant par rapport au système politique.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. 19 candidatures à la présidentielle sur 25 sont jugées recevables par la CENI. 15 222 candidatures sur 15 505 ont été retenues pour la députation nationale. Votre analyse par rapport à cette décision de la CENI?
Merci, cher ami Guimaté. La CENI vient de faire appliquer la 33e activité et la 34e activité contenue dans son calendrier du 5 novembre 2017. 33e activité portait sur la publication de la liste provisoire des candidats. C'est que le législateur recommande et reconnaît à la CENI. Et 34e activité continue dans son calendrier avant d'arriver à la 50e activité qui va nous amener au scrutin combiné députation nationale, députation provinciale, élection présidentielle. C'est sur la gestion du contentieux électoral. Et c'est de là, permettez-moi de féliciter les acteurs politiques, surtout les candidats invalidés, qui ont choisi la voie de recours, de se présenter devant les juridictions électorales compétentes en introduisant leur recours. Ça donne une matière, une sève à notre démocratie naissante. Et aujourd'hui, tout est parti de la publication de cette liste. Quand la liste a été publiée, il porte sur, selon ceux qui contestent, ceux qui se sont rendus compte qu'ils ont été injustement invalidés, parce qu'ils se basent sur le fait qu'il y a eu violation supposée de la législation électorale relative à leurs conditions d'éligibilité et de régularité de liste. Avec comme cause, parce que la candidate a été rejetée ou non retenue par la CENI, qui se réfère à l'article 22 de la loi électorale, candidature estimée non conforme aux prescrits légaux. La CENI se réfère aux articles 21, alinéa 2. Mauvais, soit le genre, ceux qui sont invalidés fondent leur jugement sur le fait qu'il y a eu une mauvaise interprétation ou application des dispositions légales par la CENI. Ou soit il y a eu erreur matérielle. Et maintenant nous nous trouvons devant le contentieux électoral. C'est un contentieux des actes préparatoires à l'élection. Maintenant, qu'est-ce qui va intervenir à ce moment? Comment gérer ces contentieux? C'est de là où intervient ce que nous appelons le droit électoral. Le droit électoral qui se définit comme un ensemble de procédures, de pratiques et de règles juridiques qui régissent le processus électoral et le processus de désignation à des fonctions électives. Et ici, le droit électoral compris comme tel, c'est un droit qui est en même temps droit politique, droit technique et droit procédural. D'où il faut faire
maintenant allusion au juge, celui qui va porter la casquette du juge électoral. Celui qui va, à qui les invalidés ont confié leur dossier comme avocat. Parce que ici, le droit électoral s'est défini comme un droit qui est différent du droit commun. Est-ce que le juge de demain, à qui on a confié le recours et le requête par les invalidés de lundi, qui ont déposé les documents le lundi, est-ce que le juge électoral est-il outillé en droit électoral? A-t-il eu le temps d'avoir un renforcement des capacités en droit électoral? Est-ce que les invalidés, en confiant leur dossier aux avocats qui ont fait les facultés de droit et que cette discipline court, le droit électoral n'était pas dispensé, est-ce qu'ils vont bien se comporter pour qu'on puisse rendre le verdict tant entendu dans le délai prescrit par la loi? Et c'est ça la question. Et si aujourd'hui, que ce soit les avocats, le magistrat, les avocats, le candidat invalidé et les partis prenants au processus électoral n'intériorisent pas le droit électoral qui est issu de sources du droit interne par le cadre institutionnel et la loi électorale et la constitution, c'est de suite.
Alors, lorsque vous évoquez toutes ces questions, ce genre d'inquiétude, est-ce que vous pensez que ce droit électoral sera dit comme il se doit?
Oui, si on procède, j'ai bien défini le droit électoral. Si le juge électoral maîtrise la procédure et le comportement qu'on va exercer se présenter, il va le faire. Et cette procédure est contenue où? C'est dans la loi électorale. Quand nous interrogeons la jurisprudence électorale congolaise, on nous renseigne que les élections de 2011, la loi électorale a été publiée à 5 mois des élections. Et aujourd'hui, la loi électorale a été publiée et promulguée à 7 mois des élections. On n'a pas eu le temps de s'imprégner d'esprit de la lettre de cette loi électorale. Parce que c'est la loi électorale qui contient les règles du jeu. Et que là où le juge électoral, demain qui va se prononcer, est-ce que le juge électoral a eu le temps de s'imprégner de règles du jeu contre la loi électorale? Est-ce que le pouvoir public a eu le temps de vulgariser cette loi? Est-ce que la CENI a eu le temps de vulgariser? Est-ce que la société civile a eu le temps de vulgariser? Et c'est là où nous allons nous trouver du fait que si le juge électoral va prononcer des arrêts sur le contenu, sur les requêtes des autres, sans se référer, sans se conformer au procédure du droit électoral, ça va jeter indiscrédit et sur le processus électoral et sur l'appareil judiciaire qui est le nôtre.
Vous semblez pessimiste, n'est-ce pas, sur la suite du processus. Et tous les candidats à la présidentielle qui ont été invalidés par la CENI contestent cette décision. Il y en a même comme Adolphe Mouzito qui pense que la CENI est en train, n'est-ce pas, d'obéir à une vision politique. Et est-ce que si demain les candidats invalidés n'obtiennent pas gain de cause auprès de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'ils ne vont pas faire la même remarque, n'est-ce pas, à cette haute cour?
Oui, vous savez, c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que nous devons intérioriser et les candidats, et les avocats, et les magistrats que nous appelons juges électoraux, devons dire le droit. Rien que le droit. Et quand le droit est dit, quand on dit le droit, c'est-à-dire le respect de textes, de règles de jeu.
Alors, comment vous analysez les incohérences qui ont été relevées par le professeur Bob dans les décisions, les différentes décisions qui ont été prises par la CENI? Notamment, vous avez le cas d'un député qui est en prison, mais dont la candidature est retenue par la CENI. Vous avez des candidats qui se présentent, n'est-ce pas, comme candidats à la présidentielle, mais à la députation, ils sont sur la liste d'un parti politique. Comment vous analysez, n'est-ce pas, ces genres d'incohérences?
Et ça pourrait entrer à ce que nous appelons des causes en droit électoral, mauvaise interprétation ou mauvaise application des dispositions légales par la CENI. Celui qui va constater mauvaise interprétation et mauvaise application des dispositions légales, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas le candidat, c'est le juge électoral. C'est ce juge électoral qui va faire le constat en se basant sur les procédures et sur la matière pour voir est-ce que la CENI a raison ou pas. Si la CENI n'a pas raison, on casse. On demanderait à la CENI de rétablir le candidat qui a été invalidé par mauvaise interprétation, par mauvaise lecture des dossiers de candidat. À ce moment-là, candidat sera rétabli.
J'ai posé la même question au professeur Bob. Est-ce que vous voyez la Cour constitutionnelle, dans le contexte politique du moment, aller à l'encontre, n'est-ce pas, de ce qui a été décidé initialement par la CENI? Monsieur Bonso.
Oui.
Est-ce que vous voyez les hauts magistrats, dans les contextes politiques du moment, aller à l'encontre de la décision prise par la CENI?
Oui, si souvent on casse. Pourquoi on doit introduire la requête? Nous avons eu, je parle de la jurisprudence électorale congolaise. Il y a eu des cas.
Là, c'est la théorie. S'il faut tenir compte du contexte politique du moment.
Le contexte politique du moment, c'est de faire confiance aux juges électoraux. Faire confiance à la juridiction électorale de notre pays. Et c'est à nous, ensemble, de faire confiance à cette institution pour que l'institution constitutionnelle puisse prouver et prouver son indépendance. Merci. Et son impartialité vis-à-vis des parties prenantes au procès électoral.
Merci Israël Moutala, journaliste. Vous êtes analyste politique et économique. Votre analyse par rapport aux listes publiées par la CENI au sujet de la présidentielle et de la députation nationale.
Mon analyse est toute simple. J'étais vraiment stupéfait par l'invalidation de certaines candidatures. Donc, pour moi, j'ai bien suivi Jérôme Bonso, qui est un expert électoral. Mais pour moi, le droit électoral n'est pas sorcier. J'ai fait quelques études de droit, et donc c'est pas sorcier. Écoutez, prenons le cas de Jean-Pierre Bemba. Pour moi, Jean-Pierre Bemba est un leader politique important. Il n'avait pas lieu d'être invalidé parce que dans ma tête et dans le bon droit, subornation de témoins n'est pas corruption. Cette confusion là, en tout cas je ne l'explique pas. Et j'ai relu le code pénal, notre code pénal. Donc il y a une infraction de subornation qui existe, il y a une infraction de corruption qui existe. Les deux ne sont pas similaires, ne sont pas identiques. Il n'y a pas identité entre les deux infractions. Et donc pour moi, ce problème là-bas n'allait même pas se poser par rapport à l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba.
Et donc vous estimez que Bemba ne devait pas être invalidé parce que selon vous, ça c'est votre interprétation, subornation de témoin ne s'apparente pas à la corruption. Et est-ce que vous pensez que cette question qui semble diviser les scientifiques, qui estiment que c'est de la corruption, et d'autres qui pensent que ça n'a rien à voir avec la corruption, et vous pensez que la CENI avait la prérogative de trancher un tel débat?
Non, absolument pas. Je ne pense pas que le service juridique de la CENI soit qualifié pour justement trancher une telle question. Dans ma tête, c'est très clair. On va le dire et le répéter. Le droit pénal est de stricte interprétation. Donc si le législateur voulait bien que les personnes qui sont condamnées pour subornation de témoins, il allait le dire expressement. Il ne l'a pas dit expressement. Pourtant, cette incrimination existe dans le droit positif congolais. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Et donc, pour moi, il est clair que subornation n'est pas corruption. Et donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on allait invalider la candidature de Jean-Pierre Bemba. Donc, je répète encore ici que le droit pénal est un droit privatif de liberté. Et tout ce qui est privatif de liberté doit être interprété de manière stricte. Parce que nous sommes dans un principe, le principe c'est la liberté, c'est de ne pas priver les gens de jouir de leur liberté politique, civile, d'aller, de venir, bref, tout l'ensemble de libertés. Et donc le droit pénal doit s'interpréter de manière très très stricte. Donc je passe. Je reviens sur la question, un autre cas qui m'interroge au plus haut point, c'est le cas de Mouzito. Mouzito a été invalidé, soi-disant pour conflit d'intérêts. Là aussi, je ne m'explique pas. Parce que il a démissionné de son parti, le Palou, après qu'il ait été suspendu. Je rappelle ici que les partis politiques sont des faits privés et que la procédure des démissions n'obéit pas à des règles particulières. Il faut pas préaviser. Bref. Et donc, il n'y a pas une procédure qui a streigné, voilà. Adolphe Mouzito a une procédure particulière.
Et s'il fallait s'en tenir, n'est-ce pas, à cet argumentaire évoqué par la CENI sur les conflits d'intérêts concernant Mouzito et son parti politique. Pourquoi, à votre avis, on a retenu la candidature du professeur Kinkey Moulumba, qui s'est présenté comme indépendant, certes, mais dont les regroupements politiques, la plateforme politique, avait récusé sa candidature? Comment vous expliquez cela?
Je vais d'abord terminer sur Adolphe Mouzidro pour dire par exemple que je disais que les partis politiques c'est des faits privés, on y entre librement, on en sort librement et la lettre de démission suffit. Et donc la première lettre n'a pas les instances du Palou, les responsables du Palou n'ont pas accusé réception, il a fait parvenir par un huissier de justice. Et donc il s'est présenté sur une liste qui n'est pas celle du Palou. Il n'y a pas conflit d'intérêts. Et donc, tout aussi inexplicable, l'invalidation d'Antoine Gizenga. Non, pas Antoine Gizenga. Samy Badibanga et...
Pour
défaut de nationalité d'origine. Écoutez, la procédure qui est consacrée, c'est la procédure en recouvrement de la nationalité d'origine. Et dès lors que quelqu'un a perdu sa nationalité pour X raison et qu'il la recouvre par après avoir suivi une procédure, il jouit de tous ses droits civils et politiques. Il n'y a aucune restriction. Et donc la notion de la nationalité d'acquisition, elle vient d'où? Je ne comprends pas. Donc c'est des Congolais d'origine qui avaient perdu la nationalité par l'acquisition d'une autre nationalité, pour l'un belge, pour l'une canadienne, et après une procédure, ils l'ont recouvré. Et donc ils sont pleinement Congolais. Et donc, la CENI, elle juge à partir de quoi? Elle juge à partir des pièces. Et donc, je pense que quand les dossiers arrivent, elle doit regarder telle ou telle personnalité. A-t-il ou a-t-elle un certificat d'enregistre, un certificat de nationalité pour ça?
Donc, et donc, vous pensez que la CENI a outrepassé ses pouvoirs?
Pour moi, oui. Mais je pense que pour la CENI, oui. En tout cas, pour certains candidats, oui. Mais il y a des erreurs qui seront corrigées au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour des candidats qui ne seront pas gênants pour le pouvoir, ça c'est ma lecture maintenant, et que la cible était Jean-Pierre Bemba, et que voilà, on peut récupérer 4. On peut récupérer 4 ou 3, mais Jean-Pierre Bemba ne sera pas récupéré. Donc voilà, il y a des arrière-pensées politiques. Ça, c'est mon analyse. On peut en récupérer 2-3 pour valider le processus et dire que la Cour constitutionnelle a fait son travail, elle est indépendante, elle en a sauvé 3, elle en a éjecté 3, voilà, ou 4, elle en a récupéré 4, elle en a éjecté 2. Bref, il y aura un petit jeu comme ça, mais pour moi, en prenant date, Jean-Pierre Bemba ne sera pas sauvé.
Et donc les dés sont jetés pour Jean-Pierre Bemba, cela veut dire que les MLC ne devaient même pas saisir la Cour constitutionnelle.
Non,
parce qu'à votre avis,
elle le fait,
c'est un cas irréparable.
Elle le fait, elle est dans ses droits, elle le fait, mais personne n'est dupe. Donc ça veut dire que elle criait déjà à une cabale politique et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le professeur Bob Kabamba a évoqué tout à l'heure que la Cour constitutionnelle a été restructurée. Voilà, elle n'a pas été restructurée par hasard. Et donc derrière cette restructuration, il y a des arrière-pensées politiques.
Et donc vous pensez que la Cour ne sera pas en mesure d'aller outre, n'est-ce pas, les décisions de la CENI?
Non.
Pour certains cas.
Pour certains cas, bien sûr. Parce que, écoutez, nous sommes dans une démocratie, comme on a dit, encore fragile. Vous avez vu aujourd'hui, Samy Badibanga a été, par exemple, maladroit. Et je le dis clairement, en demandant qu'on fasse des tests ADN de toutes les autorités jusqu'aux plus hautes. C'est un discours à bannir. Mais de là à lui retirer la garde, on montre très bien qu'on n'est pas une république. C'est un fait privé, donc quelqu'un peut se réveiller comme ça, un coup d'humeur, il demande à ce que la garde qui est commise à un ancien Premier ministre soit retirée parce qu'il n'est pas content. Il y a des humeurs. Et donc ces humeurs-là, ces rumeurs-là, peuvent affecter toutes les institutions sans exception. D'où la consolidation de la démocratie. Et les institutions ne sont pas encore arrivées à maturité pour justement résister à des humeurs de prince.
Et donc, vous voulez dire que la politique a influé sur les décisions de la CENI?
Écoutez, la composition de la CENI, il y a de l'influence politique, donc il ne faut pas se voiler. Et donc, les principaux membres qui composent le bureau et la plénière de la CENI émanent des partis politiques, de la société civile. On connaît les liens qu'ont les uns et les autres avec telle société civile, tel parti politique. Donc, l'influence politique est permanente à la CENI.
Merci, professeur Bob Kabamba. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Mbandaka.
Gilbert Lokwa Luando, depuis la ville de Mbandaka. Certains candidats présidents dont les candidatures ont été invalidées par la CENI doit savoir que dans le contexte actuel, il n'y a pas la différence entre la CENI et la Cour constitutionnelle, car les deux institutions sont dans l'approche du pouvoir en place. Comme preuve, l'ex-gouverneur de la province de la Choapa, M. Cyprien Lomoto, en 2016, avait été réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais empêché de retourner dans la province en tant que gouverneur par le PPRD. Cela veut dire qu'un parti politique est même au-dessus de la Cour constitutionnelle dans notre pays.
Oui, professeur Boukabamba.
C'est vraiment une question, une observation très pertinente. Lorsque l'on est justement dans une espèce de démocratie fragile où on assiste même plus, on ne peut pas parler, dans le cas du Congo, on ne peut plus parler de démocratie fragile. On peut plus parler de ce qu'on appelle dans le droit, dans la politologie africaine, quand on classifie les régimes politiques, on parlerait beaucoup plus d'un régime plutôt autoritaire plutôt qu'une démocratie. Et dans un tel contexte, s'il y est organisé des élections, cela veut dire que celui qui est au pouvoir ne va pas organiser les élections pour les perdre. Il doit organiser les élections pour le gagner, pour ainsi pérenniser le régime autoritaire tel qu'il existe. Donc, les élections ne sont pas un moyen d'alternative, les élections sont simplement un moyen de consolidation du régime.
Et donc, au professeur, au départ, il y a cette...
Oui.
Allô, oui, si on vous comprend bien, au départ il y a cette intentionnalité, n'est-ce pas, de pouvoir rester, de vouloir plutôt conserver le pouvoir par tous les moyens.
Par tous les moyens, et les élections ne sont pas un outil pour changer, pour l'alternative dans ce genre de régime. Alors ça veut dire que toutes les institutions qui sont mises en place pour essayer de faire comme si on va avoir une alternative par les élections, toutes les institutions, bien sûr, ne doivent travailler que dans l'objectif de la consolidation du régime et pas dans une perspective d'alternative. Et donc ce n'est pas étonnant que l'auditeur fait le constat de dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'il voit par rapport à la CENI et par rapport au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en donnant même cet exemple-là. Et ça la prouve effectivement que ce sont simplement des outils qui sont mis en place pour pouvoir consolider le régime tel qu'il est. Autre élément aussi qui est important, c'est que lorsque le Congo refuse d'avoir l'appui extérieur, c'est parce que tout simplement la CENI n'a pas envie de pouvoir mettre à jour tout ce qu'il est en train de mettre en place dans un souci de pouvoir aider le régime à se pérenniser. C'est tout. Lorsque vous avez les experts, lorsque vous avez un appui international, vous avez droit à avoir aux informations, vous avez droit à la façon dont tout ceci est en train de s'organiser. Et si vous voyez tout ce que comme tout est organisé, vous arrivez à la conclusion que, de manière très claire, la direction de la CENI n'est pas du tout impartiale comme le dit la loi. Elle est plutôt tout à fait partiale. Alors je voulais juste revenir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport au droit électoral, le juge électoral. Par rapport au cas que j'ai donné tout à l'heure, ce sont des candidatures qui ont été validées aussi bien par la CENI, mais aussi par le juge électoral. Le juge électoral qui est, dans le cas des députés provinciaux, les conseils des députés provinciaux, les cours d'appel, dans le cas du Sud-Kivu, c'est la cour d'appel de Bukavu, et dans le cas de Lubumbashi, c'est la cour d'appel du Haut-Katanga, donc de Lubumbashi, qui a validé. C'est donc le juge électoral s'est déjà prononcé sur ces cas de fautes, d'illégal, mais qui sont déjà consolidés par le juge électoral. Et donc, de ce fait-là, quand je vois effectivement ce qui est validé par le juge électoral déjà au niveau des provinces, je vois mal comment le juge électoral au niveau de la Cour constitutionnelle va aller à l'encontre de ceux qui viennent de la CENI. Peut-être que l'on va essayer d'invalider l'un ou l'autre, mais nécessairement pas les candidats qui sont en mesure de pouvoir influer de manière très claire sur la potentielle candidature donc de Chaberg. Et je remets encore une fois la question même de la faisabilité de ces élections au 23 décembre. La question revient à l'ordre du jour et de plus en plus, lorsque vous observez, lorsque vous écoutez les différentes personnes qui sont impliquées, et bien maintenant on commence à revenir avec un discours, aussi bien les communicateurs de la majorité présidentielle que d'autres observateurs internationaux, aussi bien les Nations Unies que la MONUSCO, commence de manière très claire à mettre des doutes sur la faisabilité de ces élections au 23 décembre. L'Union européenne, pareil. Donc,
merci, professeur.
On fait comme si... Oui,
je vous en prie. Oui, je vais vous redonner la parole. Monsieur Jérôme Bonceau, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, c'est celle de Georges Moussoubaou qui vient de Goma au nord Kivu.
Oui, La Cour constitutionnelle doit prendre une décision responsable pour ainsi prouver à la face du monde son indépendance, en convaincant aussi ceux qui passent du côté du pouvoir. Et surtout pour les cas qui se marient, de Ramazan Shadary et Mouzito qui sont les mêmes, elle doit soit invalider tous les deux candidats, soit valider tous les deux.
Jérôme Monceau.
Oui, merci, cher ami Georges. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'implication ou bien de voir la Cour constitutionnelle prendre une décision responsable. La décision responsable du juge électoral au niveau de la Cour constitutionnelle est motivée par les procédures et les techniques liées à la législation électorale. Donc ici, le juge électoral ne doit pas exprimer ses propres sentiments ou bien les sentiments qui viennent sous la pression. Il doit le faire en âme et conscience parce qu'il a un autre juge à l'intérieur de son cœur, c'est la conscience. Le juge électoral ici va être interpellé par le premier grand juge qui est sa conscience pour voir comment il va se prononcer là-dessus. Et c'est pourquoi nous le répétons, que le juge électoral, M. Bob Kabamba vient de faire allusion au juge électoral au niveau de province. Et nous devons avoir le fait d'avoir accepté les listes qui ont été présentées par la CENI. Est-ce que le juge électoral s'est référé à la loi? Nous disons oui. Mais s'il arrivait que le juge électoral, qui devait se référer à la loi et au droit électoral, lui-même, je le répète, n'a pas été outillé à cela. Et l'acte que le juge va poser, c'est ce qu'on appelle dans le jargon électoral, dans la délinquance électorale. La délinquance électorale est exprimée par un individu que nous qualifions de délinquant électoral, qu'il soit juge, qu'il soit avocat, qu'il soit candidat lui-même, parce qu'il ne maîtrise pas le droit électoral. Or, aujourd'hui, le droit électoral est devenu une science. Il faut aller à l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, FEAG. Il y a de grands professeurs qui donnent ce cours de droit électoral, qui donnent ce cours de planification de gestion du cycle électoral. Quand vous voyez Jean-Louis Sambor et nos amis Onésime, ils sont outillés. Et c'est pourquoi je lance un appel aux candidats et de se faire assister par des techniciens, des experts en droit électoral. Parce que la décision qui sortirait, oui, parfois de procédure, par la non-maîtrise du droit électoral, par les avocats qu'on a désignés, que les SIC invalidés ont désignés, ont mandatés, et par le juge lui-même, qui n'a pas eu le temps de maîtriser le droit électoral en s'imprégnant le fond et la forme et des dispositions innovées dans la loi électorale, et il va poser ce que nous appelons en élection des crimes électoraux.
Et compte tenu, M. Jérôme Bonso, compte tenu des positions inflexibles, n'est-ce pas, des camps au sujet de cette question des subornations des témoins, et est-ce que vous pensez que la décision de la Haute Cour pourrait mettre tout le monde d'accord par rapport à cette question?
Si cette décision est établie sur le respect des règles du jeu, si cette disposition est établie, parce que vous avez ici article 21 alinéa 1 qui nous parle, qui nous renvoie des critères de rejet de candidature, et ça nous renvoie à l'article 9 qui parle de la nationalité et article 10 de condamnation par le jugement irrévocable. Et si le juge va se mettre sur la ligne droite du droit et de dire le droit, rien que le droit, sans pression, sans influence extérieure, en se référant à sa conscience qui est son juge naturel, nous pensons que ça ne va pas jeter le discrédit ni sur le procès électoral, ni sur l'appareil judiciaire électoral.
Donc la candidature de Jean-Pierre Bemba, contrairement à ce qu'a dit Israël Moutala, pourrait être récupérée.
Pourquoi c'est pas possible. Pourquoi pas? J'ai été un peu, quelque part, l'attitude de mon ami Miguel qui a dit, c'est déjà jeté à la base. Non, c'est pas ça, nous sommes dans un état de droit.
Merci.
L'inspecteur Joly a présenté les moyens solides, et nous espérons que si les moyens solides présentés par l'inspecteur Njoli, professeur Njoli, vont rencontrer les personnes du juge électoral, merci, et Jean-Pierre Bemba pourrait être récupéré.
Oui, Israël Moutala, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent du Kasaï central.
C'est l'aspect Kabia Bistou, Kananga, au Kasaï central. Un droit qui ne se revendique pas se perd du temps. J'encourage tout le monde qui a introduit son recours et souhaite que la Cour constitutionnelle constitutionnelle agisse en toute neutralité, avec professionnalisme et même avec patriotisme. En invalidant certaines candidatures, j'ai comme impression que la CENI s'est pliée aux pressions du gouvernement. Si la loi était appliquée véritablement à tous, même Ramazani Chadari, candidat du FCC, serait lui aussi invalidé pour avoir postulé comme candidat indépendant pendant qu'il continue à assumer les hautes fonctions au sein du PPRD, contrairement à certaines dispositions de la loi électorale en vigueur. En plus, la CENI a validé certains fonctionnaires de l'État qui, malgré la présentation de leur lettre de démission ou de mise en disponibilité à la CENI, continuent à prester dans leurs entreprises publiques respectives. Tout ceci constitue les erreurs graves auxquelles la Cour constitutionnelle devrait statuer pour rendre un arrêt digne selon les droits.
Voilà, un candidat indépendant mais qui n'a pas démissionné de ses fonctions au sein de son parti politique.
Oui, il y a matière, mais comme on l'a dit, voilà, il y a une procédure à suivre. Alors cette procédure, le cas Chadari n'est pas à la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle ne peut pas s'autosaisir de ce dossier et le traiter. Mais voilà, nous sommes devant, c'est un raisonnement implacable malgré quelques faiblesses. Donc ça veut dire que là, comme le dossier, il n'est pas invalidé, et voilà. J'ai pas encore lu le professeur Essambo là-dessus, qui a écrit beaucoup sur le droit électoral. Emery Wafwana aussi a écrit sur le droit électoral, voilà. Mais par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait une procédure d'action devant la Cour suprême, devant la Cour constitutionnelle, pour essayer de dire non, tel candidat devait être invalidé alors qu'il n'a pas de nom. Il n'y a pas. Et donc, pour revenir à la préoccupation de notre ami, je suis pas un idéaliste. Je vis dans une société. J'essaye d'être modéré. Je n'irai pas jusqu'à emprunter le terme du professeur Bob Kabamba, qui dit que nous sommes dans un état, dans un régime autoritaire. C'est vrai. Nous sommes dans un régime qui a quelques aspects autoritaires. C'est vrai. J'ai parlé d'une démocratie fragile, très très fragile, très très fragile. Nous essayons de la consolider.
Mais maintenant que la Cour constitutionnelle a été saisie, quels sont, selon vous, les scénarios possibles?
Je ne me fais pas d'illusions. Je le dis très 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 très, très gentiment à Jérôme Bonso, qui est un expert électoral. Je ne me fais pas d'illusions sur l'issue du recours introduit par Jacques Ndjoli par rapport à la carte. Donc, elle sera rejetée. Et donc, je ne fais pas d'illusion. Mais je dis ceci à notre ami Célestin Kabeya. Je dis la Cour neutre, impartiale, mais on est où? On est en RDC, où les institutions ne sont pas encore arrivées à maturité, où les devoirs d'ingratitude reconnus aux juges n'ont pas encore été intériorisés. Les gens sont redevables aux personnes qui les nomment. Merci. Donc c'est comme ça. Et Jérôme Bonso parlait tout à l'heure de la conscience. Mais bon, nous sommes dans ce pays aussi. Les juges ne jugent qu'en fonction de leur conscience, c'est ce qui est dit.
Merci.
En fonction de la loi et tout. Mais ça n'empêche pas que nous ayons des jugements iniques. Et merci. Donc voilà. Merci. Et cette réalité ne va pas changer parce que c'est à la Cour constitutionnelle. Non. Les magistrats de la Cour constitutionnelle, ils sont issus d'une société pourrie et ils reflètent cette pourriture dans leurs arrêts. C'est comme ça.
Professeur Bob Kabamba, ça sera sous votre conclusion. C'est quoi les scénarios possibles après la saisine, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle par les différents candidats qui ont été invalidés?
Donc, je pense de manière sans ambiguïté qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce qui a déjà été décidé. Donc, je pense que beaucoup plus que l'on va avoir au niveau international une pression encore beaucoup plus forte. Vous avez remarqué chaque fois qu'il y a une pression internationale qui est sur le Kinshasa bouge, et Kinshasa obéit le plus souvent aux pressions internationales. Je ne pense pas que ce fait va crédibiliser le processus, donc la communauté internationale va encore faire pression sur Kinshasa pour que Kinshasa revienne dans le bon chemin et assure un processus électoral crédible et impartial.
Merci. Jérôme Bonso, votre conclusion, la suite du processus électoral.
Oui, nous devons contribuer à réduire le nombre de recours, de requêtes lors de contentieux de scrutin, avec 19, 15 000 candidats, députation nationale, 19, 26, ça fait une affaire de 24 000 candidats. Mais si tout le monde devait déposer des recours, c'est la Cour constitutionnelle et d'autres cours seront débordés. Et nous devons demander aux anciens recettes de s'impliquer à vulgariser la loi électorale par la CENI, la société civile et le pouvoir public.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique, à Alain Irung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci à Samet Kadi pour un autre débat et bon suite au programme sur Radio Papi.